Vous écoutez
RMC. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h33 sur RMC et BFM TV. Bonjour Sandrine Rousseau.
Bonjour.
Vous êtes députée Europe Écologie Les Verts de Paris. Vous étiez en première ligne pour discuter de la réforme des retraites et en débattre. Et vous serez sans doute devant votre poste de télévision tout à l'heure à 13h pour écouter Emmanuel Macron. Mais on a déjà quelques éléments. Ni référendum, ni remaniement, ni dissolution. Qu'est-ce qui reste ?
Mais il reste le pourrissement ou l'incident. Et c'est ça que cherche Emmanuel Macron en réalité. C'est le pourrissement ou l'incident. Mais je lui dis, c'est une stratégie dangereuse. Parce que là, ce qui est sorti dans les rues, les personnes qui vont manifester tous les soirs maintenant, ce sont des personnes qui cherchent vraiment à vivre, qui cherchent une autre société, qui cherchent presque une utopie de société, j'ai envie de dire. Et je pense que ça dépasse même la question des retraites. Mais aujourd'hui, ce mouvement, les jeunes commencent à sortir dans la rue. Et finalement... Enfin, moi, je le trouve très salvateur, ce mouvement, parce qu'on a besoin de réfléchir à quelle société nous voulons pour l'avenir.
J'ai l'impression que vous préférez les manifestations d'aujourd'hui aux manifestants d'hier.
Non, je...
Je veux dire, ceux qui, aujourd'hui, effectivement, dans des rassemblements qui parfois sont rassemblements dits sauvages, c'est-à-dire sans que ce soit des manifestations ni organisées, ni cadrées, par contraste avec les manifestations qui ont lieu depuis deux mois, qui étaient des manifestations beaucoup plus à la suite des syndicats. Ils appellent les syndicats, et beaucoup plus calmes d'ailleurs.
Alors, pas du tout, parce que dans les deux cas, et ça, c'est vraiment très frappant, ce sont des manifestations joyeuses. Joyeuses, heureuses, enthousiastes. Ce sont des manifestations pacifistes, contrairement aux images qui sont montrées. En général, c'est à la fin des manifestations, quand les policiers commencent à charger, que ces images-là arrivent. Mais ce sont vraiment des manifestations.
Vous y étiez d'ailleurs, hier, vous étiez place de la République.
Oui, j'étais place de la République, j'étais place d'Italie, enfin, j'ai fait à peu près toutes les manifestations. Mais vraiment, là, il y a quelque chose de l'ordre d'une joie à se retrouver sur les places publiques et à essayer de définir un nouveau monde. Donc, oui, écoutez. Cette rue parce qu'elle est créative là.
Alors justement, vous évoquiez à l'instant la question des policiers, on va y revenir puisqu'il y a des accusations de violence policière, même si de l'autre côté il y a eu aussi beaucoup d'interpellations. Mais si on reste sur ces mots, ni référendum, ni remaniement, ni dissolution, vous vous dites au fond, Emmanuel Macron cherche le pourrissement volontairement.
Oui, il cherche le pourrissement, c'est ce qu'il a fait pour les gilets jaunes. Et on voit bien que, en fait, il est incapable, mais vraiment, il est incapable de se remettre en question. Il est incapable d'entendre qu'il a tort, il est incapable d'avoir le moindre geste. Alors s'il va nous sortir les éléments de langage qui nous sort à chaque fois, à savoir, il y a une nouvelle méthode, il faut faire preuve de pédagogie. Mais les gens qui sont dans la rue, là, ont très bien compris la réforme des retraites. Ça n'est pas une question de pédagogie, c'est profondément une question d'opposition au projet qu'il présente. Et j'ai envie de vous dire que Emmanuel Macron a un seul mandat légitime absolument, qui est de faire barrage au RN. Et il fait tout le contraire, en réalité.
C'est
en laissant
qu'il a été
pourrir.
Élu. C'est-à-dire, vous estimez que le seul programme sur lequel
exactement,
il est élu,
c'est le barrage
fait d'être
au Rassemblement
en opposition
national.
À Marine Le Pen au second tour.
Et là, en laissant pourrir le mouvement, parce que c'est ce qui s'annonce dans ses annonces à 13h, eh bien, il fait exactement l'inverse. Parce que là, qui n'est plus en colère aujourd'hui dans la société ?
Est-ce qu'il va pourrir ce mouvement ?
Eh ben
est-ce
non,
qu'en effet, vous vous dites quand même,
ah ben
bon, à la
pas.
Fin des fins, Charles III va arriver vendredi, la vie va reprendre son cours.
Oui, alors ça aussi, parlons de Charles III.
Et tout ça va pourrir.
Non, je crois pas que ça va pourrir, notamment parce que les étudiants des universités sont en train de sortir et sont en train de sortir pour véritablement changer quelque chose de notre monde. Et donc, non, ça ne va pas pourrir. Mais en plus, j'ai envie de lui dire maintenant, regardez. Emmanuel Macron, regardez dans la rue, regardez la société française, qui aujourd'hui n'est pas en colère ? Qui aujourd'hui n'est pas en colère contre vous ? À part, en effet, sans doute, les personnes qui sont les plus âgées, qui se trouvent bien inquiètes par les évolutions de la société, mais c'est les seules.
Quand vous parlez des jeunes, Sandrine Rousseau, vous avez travaillé, vous avez même été dans la direction d'une des universités de la région Nord. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous dites, s'il y a des universités bloquées, s'il y a des lycées bloqués, tant mieux ?
Oui, tant mieux, parce que là, leur avenir aujourd'hui est incertain à ces jeunes. Aujourd'hui, on est en train de détruire la planète, détruire les conditions de vie, détruire le modèle social, et on détruit tout, là. On est dans une espèce de folie destructrice. Pour faire de l'argent, on est capable de tout détruire. Pour faire du profit, on est capable de détruire et nos conditions de vie sur la planète, et nos conditions de protection sociale. Là, évidemment qu'il faut qu'ils y aillent, évidemment qu'il faut qu'ils sortent des universités. C'est presque une question de vie ou de mort.
Donc, non seulement vous soutenez les manifestants, mais vous soutenez les blocages. On sait qu'aujourd'hui, au moment où on se parle, il y a 40% des stations essence des Bouches-du-Rhône qui sont à sec. Est-ce que, tant pis si ça continue, est-ce que vous êtes du côté de ces bloqueurs ou est-ce que vous dites, bon, l'État aussi doit quand même remettre de l'ordre et les réquisitions sont légitimes?
Non, il faut bloquer et il faut en fait que le pays s'arrête et que Emmanuel Macron entende que ça n'est pas possible de continuer comme ça, de continuer à faire des réformes pour les marchés financiers. Il a lui-même dit que cette réforme était faite pour les marchés financiers.
Non, on a l'impression. Les marchés financiers, il ne faut pas exagérer. Il a dit que c'était pour l'équilibre financier. Vous ne pouvez pas lui faire dire ce qu'il n'a pas dit.
Non, il a dit que c'était pour satisfaire les marchés, sinon les marchés allaient s'effondrer. Enfin, les marchés de toute façon s'effondrent. Et on a l'impression que Emmanuel Macron, c'est une espèce de trader. Là, il est hors de contrôle. Pour moi, c'est quelqu'un qui devient hors de contrôle. Et la société n'arrive plus à contrôler celui qu'elle a élu à la tête
quand
de l'État.
Quand il dit Emmanuel Macron qu'il fera en effet des propositions pour un changement de méthode, mais que pour l'instant, il considère qu'il s'agit d'une victoire. Le mot a été utilisé non seulement par l'Élysée, mais aussi par la première ministre qui dit, au fond, on a le droit d'employer le mot de victoire. Il y a eu un vote, nous avons gagné ce vote. Techniquement, c'est pas faux.
Mais c'est d'une arrogance.
À 9 voix près, certes, mais enfin.
Mais c'est d'une arrogance inouïe. Et moi, je dirais pas que c'est une victoire, mais je dirais que ça n'est pas une réussite. Et qu'en l'occurrence, il est des victoires qui coûtent plus cher à ceux qui les ont remportées que les défaites. Et ils seraient allés au vote, ils auraient perdu ce vote sur les retraites. Très bien. Eh bien, on passait à une autre séquence politique. Là, nous ne passons pas à une autre séquence politique.
Donc, vous les auriez davantage respectés à ce moment-là?
Oui, parce qu'ils auraient osé. Parce qu'en fait, ils sont dans une forme de retranchement, dans une tour d'ivoire, aveugle et sourde à ce qui se passe à l'extérieur. Et le respect, c'est aussi de s'affronter aux difficultés. Et ils ne s'y affrontent pas. Au contraire, ils fuient par le 49-3. Le 49-3 était une fuite de la démocratie. Ils n'ont pas voulu regarder l'opposition qu'il y avait à leur projet. Ce ne sont pas des gens courageux, contrairement à ce qu'ils disent partout. Ce sont des gens qui, au contraire, fuient la difficulté de manière constante depuis qu'ils ont été
élus. La foule n'a pas de légitimité face au peuple qui s'exprime à travers ses élus. Vous devriez être satisfaite de cette phrase-là, puisque les élus, c'est vous.
La foule, quand on parle de foule, alors qu'il s'agit d'un mouvement social depuis des semaines, que des gens perdent des journées de salaire, que des gens même sont angoissés et stressés à l'idée de devoir travailler 2 ans de plus parce qu'ils ont mal partout, que ce sont des gens qui tous les soirs vont manifester, qui risquent d'être interpellés de manière sauvage, comme on l'a vu ces derniers temps. Et de quoi parle-t-on là? De quoi parle-t-on? Quand il utilise le terme foule, on a l'impression d'une espèce de horde de sauvages, mais nous ne sommes pas une horde de sauvages.
Il a aussi parlé d'émeutes, hein.
Nous ne sommes pas une horde de sauvages, nous sommes un mouvement social. Et ça se respecte. Et c'est un mouvement social qui est, depuis un moment, organisé par l'intersyndicale, c'est-à-dire par des syndicats qui ont été créés par la loi Waldeck-Rousseau en 1884.
Mais je précise, Sandrine Rousseau, puisque je citais en effet l'Élysée qui a donné aussi le contenu de cette réunion entre Emmanuel Macron et ceux qui étaient face à lui, notamment les députés de la majorité. Il leur aurait parlé d'émeutes. Au départ, les éléments qu'ont donné l'Élysée, c'était les meute en 2 mots, avant de rectifier et de dire qu'il ne s'agissait que de l'émeute. Est-ce que ça, malgré tout, vous constatez qu'il y a en effet des émeutes?
Non mais ni l'un ni l'autre, il y a un mouvement pacifiste.
Il n'y a ni meute ni émeute.
Il y a un mouvement social, un mouvement enthousiaste, un mouvement nombreux, massif, et un mouvement qui ne demande qu'une seule chose, c'est le retrait de ce texte. Au nom de quoi traite-t-on ce mouvement de horde, de meute, de sauvage? Enfin, au nom de quoi utilise-t-on ces mots? Quelle est sa responsabilité? Sa responsabilité, c'est de tenir une cohésion sociale. Est-ce qu'il pense vraiment pouvoir la tenir en mettant des mots comme cela? Qui est-il en fait? Au nom de quoi parle-t-il?
Je voudrais qu'on écoute ce que dit Laurent Nunez, puisque vous avez évoqué ces fins de manifestation qui effectivement jour après jour, donc depuis l'usage du 49-3, se terminent dans des moments de violence, avec effectivement des destructions dans la rue, avec aussi d'ailleurs des permanences d'élus, on va y revenir, qui ont été ciblées. Laurent Nunez, il était sur BFM TV hier et voilà ce qu'il dit, le préfet de police de Paris.
Vendredi à la Concorde, nous avons eu 6 fonctionnaires de police gravement blessés, dont 2 qui ont pris des pavés en pleine figure. Donc voilà, il faut aussi recontextualiser les choses. Ce ne sont pas des cortèges pacifiques. Enfin, quand nous intervenons, nous ne sommes pas confrontés à des cortèges pacifiques, c'est faux. Et je crois avoir démontré, depuis que je suis préfet de police, que les forces de l'ordre n'interviennent que quand il y a des exactions. On est toujours au plus loin et on intervient quand il y a des exactions, mais on le fait, et ce sont les instructions du ministre de l'Intérieur, on le fait avec la fermeté qui est celle de l'ordre républicain.
L'ordre républicain nécessite aussi qu'il y ait une fermeté à la fin des manifestations. Voilà ce que dit Laurent Nunez, ce qui justifie parfaitement les activités et les gestes de ces policiers.
Mais ça ne nécessite pas qu'on balance des grenades lacrymo sur la tête de manifestants. Ça ne nécessite pas qu'on fasse des charges sauvages comme c'est actuellement.
Ça ne nécessite pas.
Et je rappelle quand même que, par exemple, il n'y a eu aucune espèce de vitrine de cassée. C'est-à-dire, il y a eu des feux de poubelle. Oui, il y a eu des feux de poubelle. Il n'y a eu aucune espèce de dégradation matérielle autre que des feux de poubelle. Eh bien, on est où là dans la répression.
On la met où la barre de ce qui est acceptable?
Non mais il y a des feux de poubelle. Voilà, oui, c'est spectaculaire. On voit des flammes, etc. Il n'y a pas de casse aujourd'hui.
Il dit aussi, qu'il dit qu'il y a eu 6 fonctionnaires de police gravement blessés, dont 2 qui ont pris des pavés en pleine figure.
Oui, et moi je suis allée voir des jeunes en garde à vue dans un commissariat. Il y en avait un qui avait un œil au beurre noir comme ça, alors que juste il était en train de manifester pacifiquement. On a vu hier des images de quelqu'un qui était assis à une terrasse de café, un homme de 50 ans à une terrasse de café qui était interpellé de manière
assez surpris lui-même
de ce qui se passait. Enfin, je veux dire, là, on a une responsabilité. Il a une responsabilité qui est qu'il n'y ait pas d'incident. Et je lui dis, êtes-vous capable d'assurer qu'il n'y ait pas d'incident? Parce qu'on sent un changement de doctrine dans le maintien de l'ordre.
Que voulez-vous dire?
Eh bien, le préfet Nunez qui a assuré qu'il n'y avait pas d'incident dans les premières manifestations, qui a assuré la pacification de ces premières manifestations, là change d'attitude et dit
mais
lui-même,
aussi,
il assume
tout à fait les mêmes manifestants.
Il assume par exemple qu'il y ait des NAS, ce qui a été interdit par le Conseil d'État. Donc en fait, on est dans une zone de non-droit. C'est pas parce que la police a le monopole légitime de la violence qu'elle doit l'utiliser. Et c'est cela en fait le sujet des manifestations. Aujourd'hui, il y a un maintien de la paix à organiser parce que c'est une révolte légitime du peuple français.
Également aux manifestants.
Il n'y a pas de responsabilité des violences du côté des manifestants. Je rappelle quand même que, encore une fois, il n'y a pas eu de casse.
Il n'y a pas eu de casse. Il y a eu quand même des permanences, notamment, qui ont été prises pour cible. Il y a eu la permanence du député Éric Ciotti. Il y a eu aussi celle du député Éric Poget. Vous avez sans doute vu les images. Il les a d'ailleurs mises sur Twitter. Ma permanence a été caillassée cette nuit après le vote. Et on voit un pavé qui a donc traversé la vitrine de sa permanence. Est-ce que ça, vous considérez que c'est pas des caillassages? Est-ce que ça, vous considérez que c'est pas des mises en danger?
Il y a deux vitrines de deux députés, très bien. Bon, je regrette qu'elles aient été cassées. Je pense que ça n'est pas une manière de faire. Très bien. Après, les autres images que j'ai vues, c'est des tags sur des vitrines. Franchement, on s'en remet. Je crois que là, on est dans un mouvement historique.
J'ai
on est dans une bascule historique.
Où est-ce qu'on met la barre, quoi? C'est-à-dire qu'en fait, bon, c'est deux. Ah bah, s'il y en avait eu 10, vous auriez dit que c'était grave. S'il y en a 2, vous dites que c'est pas très grave. Et puis, si c'est des tags, ça va.
Je dis, on ne le fait pas. Après, je vous dis aussi, on est dans une bascule démocratique, là. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on oblige les gens à travailler 2 ans de plus. Elle est là, la violence. Et c'est une violence qui va toucher la vie de millions de personnes. Et cette violence-là, c'est une violence sociale qu'on ne regarde jamais comme une violence. Or, c'est une violence. Donc là, c'est là qu'elle se situe aujourd'hui.
Mais
la question
moment,
de...
à aucun moment, vous ne la condamnez fermement. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où le rôle des élus, c'est aussi de dire, bon, cette créativité dont vous parliez au début, elle est importante, mais trouvons aussi les mots pour apaiser.
Eh bien, je vous dis que
j'imagine
les mots pour apaiser, c'est le retrait,
Macron qu'il va apaiser.
C'est le retrait du texte, c'est le remaniement ministériel, c'est tout ce qu'il ne fait pas. C'est tout ce qu'il ne fait pas. Or, précisément, il a cette responsabilité d'apaiser aujourd'hui et de retrouver la cohésion sociale. Et il fait tout l'inverse. Mais même, allons à la dissolution de l'Assemblée nationale.
Il a prévenu qu'il n'y aurait ni référendum, ni remaniement, ni dissolution.
En fait, il avait mal expliqué qu'on n'avait pas compris, qu'on était encore des imbéciles et que lui, dans sa toute grande puissance et intelligence, avait tout compris. Mais non, nous ne sommes pas dans cette situation-là. Il y a un peuple qui se révolte contre une mesure qui est une violence sociale. C'est tout. Et il a à entendre ce peuple puisqu'il en est à la tête. Et entendre
Donc pour
ce
vous,
peuple,
il faudrait dissolution.
C'est prendre une mesure. C'est un remaniement ministériel, c'est une dissolution, c'est le retrait du texte, c'est les trois en même temps. C'est les trois en même temps.
Et sur la suite, lorsqu'il dit que s'il n'y a pas de majorité atteignable à l'Assemblée, alors il pourrait envisager de passer par d'autres processus et l'on comprend qu'il s'agit plutôt de décrets ou d'ordonnances, est-ce que vous estimez que c'est en son pouvoir et que c'est légitime?
Non mais là, après les 49-3, on va avoir les décrets et ordonnances. Voilà. Donc en fait, on aura un président de la République sur une 5e République qui arrive à sa fin, qui s'essouffle à faute de démocratie. Et donc on va avoir un président dans cette situation démocratique qui va passer après les 49-3 par décret. C'est-à-dire qu'on zappe complètement le Parlement. On zappe complètement la démocratie. Nous ne voulons plus de cette 5e République. Nous ne voulons plus de cette
6e République à vous. Ça ressemblerait à quoi?
Mais c'est une République parlementaire. C'est une République parlementaire. C'est une République du compromis parlementaire. C'est une République du pouvoir au Parlement.
On a déjà fait ça avec la 4e République.
Non, la 4e République, c'était une République
parlementaire
qui n'a pas permis de trouver de majorité. Là, on le fait d'ailleurs dans toutes les communes, on le fait dans tous les conseils régionaux, on le fait dans tous les conseils départementaux. La réalité, c'est que ça se passe très bien.
Aujourd'hui, donc, au fond, ça aurait pu être le cas. Quand on se retrouve avec, comme c'est le cas aujourd'hui, une majorité qui a une majorité relative, ça aurait pu entraîner ce dont vous rêvez visiblement, c'est-à-dire des formes de grandes coalitions, de consensus, de compromis.
Mais bien
clairement,
sûr.
Ça n'a pas été le cas. Mais ça, c'est aussi la responsabilité des députés, non?
Ah, c'est la responsabilité du gouvernement. Nous avons proposé plein d'amendements sur tous les textes qui ont été présentés depuis le début de la mandature au Parlement. Nous n'avons jamais obtenu le moindre soutien du gouvernement sur le moindre de nos amendements. Pourquoi? Ils n'ont pas cherché à faire le moindre des compromis, ni avec le PS, ni avec nous, ni avec le PC, ni avec LFI. Pourquoi? Les seuls avec lesquels ils parlent, c'est les Républicains. Ça fait des semaines et des semaines qu'il y a un mouvement social. Il n'y a pas eu un seul dialogue avec les forces syndicales. Il n'y a eu aucun appel à recevoir les forces syndicales. Mais vous vous imaginez? Vous imaginez l'Allemagne travailler comme ça, par exemple? Vous
imaginez séparément, ils demandaient à être reçus ensemble. Ça n'a pas été le cas.
Non, mais il n'y a eu aucun appel à les recevoir, là, pendant tout le conflit social. Les syndicats sont des corps intermédiaires, sont des forces qui permettent de faire le lien entre la rue et le gouvernement et à relayer les revendications
de la rue. On va quand même donner tous les éléments pour être tout à fait précis. Les syndicats ont été reçus avant le début débat politique à l'Assemblée. Ils ont ensuite demandé à être reçus à nouveau et à être reçus par Emmanuel Macron. La porte de l'Élysée s'est fermée, mais ils ont dit non, il reste la porte ouverte au gouvernement. Celle-là, ils n'en ont pas voulu.
Non mais il n'y a eu aucune espèce d'appel d'Elisabeth Borne disant solennellement je vous invite, venez tel jour, etc. Il n'y a jamais eu ça. Les seules choses...
C'est toujours resté vague, ça que vous voulez dire.
Mais bien sûr. Et le président de la République a refusé de les recevoir. Alors que... on avait plus de 3 millions de personnes
jusqu'à
dans les
quand.
Rues. Mais non, mais vous vous imaginez quand même de la forteresse
et
dans laquelle ils sont
et
enfermés.
Jusqu'à quand? C'est-à-dire, Sandrine Rousseau, quand finalement, il y avait toutes ces manifestations avec une perspective qui était le moment du vote à l'Assemblée. Il n'y a pas eu de vote, il y a eu un 49-3. C'était la nouvelle perspective. Aujourd'hui, officiellement, la loi, elle est adoptée. Certes, il reste le processus du Conseil constitutionnel, mais est-ce que ça veut dire que ces manifestations auxquelles vous avez participé ces derniers jours, elles doivent se poursuivre quoi qu'il arrive, quelque temps qu'il faille, sans horizon, jusqu'à quand?
Ah ben, continuons ces manifestations et j'ai envie de vous dire, créons quelque chose.
Mais il y avait une nuit debout, il y avait eu tout ça, bon ça n'a jamais vraiment
abouti. Oui, et les colères se sédimentent, plus personne n'en veut.
C'est ça que vous voulez que ça recommence?
Plus personne n'en veut de cette société qui détruit nos corps, qui détruit la planète, qui détruit tout. Nous n'en voulons plus. Donc créons quelque chose. Créons un mouvement qui s'installe dans le temps. Créons quelque chose de l'ordre de notre dignité retrouvée, parce que c'est cela qui est en train de se jouer dans les rues actuellement. C'est quelque chose de l'ordre de notre dignité retrouvée. Quand les éboueurs refusent de ramasser les poubelles, ils parlent de leur dignité. Ils parlent de leurs conditions de travail. Ils parlent de leur corps. Ils parlent parce que les Parisiens se plaignent des odeurs. Très bien, eux, ils sont dans les odeurs non-stop, 365 jours sur 365. Ils parlent, en fait, de ces métiers qu'on a applaudis à des moments, et au moment du Covid, et qu'on a totalement oublié. C'est de la dignité dont il s'agit.
Le contraste sera saisissant vendredi, puisque Charles III, le nouveau roi d'Angleterre, va être reçu par Emmanuel Macron avec un dîner d'État à Versailles. Oui, je vous vois qu'il levait les yeux au ciel.
Ah non, mais incroyable. Incroyable. C'est-à-dire qu'on va avoir Emmanuel Macron, le monarque républicain, qui va recevoir Charles III, qui va descendre les Champs-Élysées, qui va aller dîner à Versailles pendant que le peuple dans la rue est en train de manifester. On se rend compte là de ce qui est en train de se passer. On se rend compte de l'incroyable déni de démocratie dans laquelle nous sommes, et on se rend compte de...
Mais annuler une visite comme ça qui est organisée très à l'avance, ça vous paraît... Vous auriez annulé, vous?
Non, mais ce qu'il faut annuler, c'est le projet des retraites, en fait, là. Donc, discutons avec les syndicats, qu'ils discutent avec les syndicats, qu'ils arrêtent de parler de victoire, qu'ils arrêtent de parler...
En attendant cette rencontre et
mais bien sûr qu'il annule. Mais bien sûr qu'il annule cette visite de Charles III. Enfin, pardon, mais là, il se passe quelque chose dans le pays. Est-ce que vraiment la priorité, c'est de recevoir Charles III à Versailles? Mais non, non. Là, il se passe quelque chose dans la société française. Donc qu'il entende cette société, il en est le président de la République. La priorité, ça n'est pas Charles III. La priorité, c'est de discuter avec cette société qui se soulève. Oui, soulevons-nous. Oui, continuons à occuper les places, Charles III ou pas Charles III.
Sandrine Rousseau, députée Europe Écologie Les Verts de Paris. Merci d'être venue répondre à mes questions. Il est 8h52 sur RMC BFM TV.